C'était Pavane pour une infante défunte, un long extrait, une musique de Maurice Ravel, jouée ici par la harpiste Valérie Milo, qui est au bout du fil. Bonjour Valérie Milo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous allez participer à ce concert de jeudi 17 novembre à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau avec l'Orchestre de chambre Imouzichi de Montréal sous la direction de la chef canadienne Tania Miller. Et c'est En voyage à Paris, donc un thème extrêmement réjouissant, inspirant. Mais avant de parler du concert, Valérie Milo, j'aimerais qu'on parle de cet instrument qui fascine plusieurs personnes, de votre instrument, celui que vous avez choisi pour pratiquer votre métier de musicienne, donc la harpe. Comment vous avez découvert cet instrument?
Ben moi, j'ai eu la chance d'être en contact beaucoup avec la musique classique quand j'étais jeune. On était abonnés à l'Orchestre symphonique de ma ville natale, Trois-Rivières. Donc, la harpe, je la voyais toujours, en fait, de temps en temps, c'est un instrument que je croisais. Puis aussi avec le ballet Casse-Noisette. Donc, comme j'ai été imprégnée par la musique symphonique assez tôt, la harpe était dans mon entourage. Évidemment, c'est rarement le premier instrument dont on joue. On commence souvent avec un instrument un petit peu plus commun. Dans mon cas, c'était le piano. Puis vers l'âge de 9 ans, j'ai voulu explorer quelque chose d'autre. Donc, j'ai hésité longtemps entre la harpe et le violoncelle. Puis finalement, en allant voir un concert de harpe solo, là, j'ai vraiment été séduite. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la harpe.
Est-ce qu'il y a beaucoup de harpistes au Québec?
On me pose souvent la question. C'est difficile pour moi de donner un chiffre parce que je me rends compte en fait que depuis quelques années, il y a un certain engouement pour la harpe, pour les gens qui veulent apprendre la harpe de manière amateur. Au niveau professionnel, mais je dirais qu'on a quand même un beau réseau de harpistes. Tous font des choses différentes. Certains font plus d'orchestre, donc d'autres plus de projets solo, musique de chambre. Donc, ouais, je dirais que ça suit le ratio de l'orchestre. Souvent, il y a une harpe pour, une vingtaine de violons. Donc, c'est un peu ça, le ratio.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a plus de femmes harpistes que d'hommes? Il me semble que oui.
j'ai longtemps voulu croire que non, parce que pour moi, c'est un instrument qui est vraiment asexué.
Oui.
Mais en fait, ça vient de la tradition... l'histoire de la harpe, ça a été longtemps un instrument de la cour, donc qui était joué par les femmes. Les femmes n'étaient pas celles qu'on retrouvait sur la scène, mais plus dans les salons. Donc, ça a été très féminisé comme instrument. Puis, encore aujourd'hui, on en porte l'héritage parce que, selon les récentes études, il y aurait quand même 95% des harpistes qui sont des femmes.
95, c'est presque la totalité.
Ouais. Ben oui, mais moi, personnellement, il y a beaucoup d'hommes qui jouent de la harpe que je suis et que j'admire beaucoup. Il y a des choses physiologiques chez l'homme, par exemple, ils ont en général une plus grande force physique. Mm-hmm. Et puis, pour moi, c'est très impressionnant de voir un homme jouer de la harpe parce que, il y a une stature puis une force qui est vraiment très importante, en fait, ou qui peut faire une différence avec cet instrument-là, parce que c'est un instrument qui donne l'impression de beaucoup de légèreté, de finesse, mais mon expérience comme musicienne est vraiment, je dirais, diamétralement opposée.
Ah oui.
C'est un instrument qui a 1,5 tonnes de tension, qui est très physique, qui demande, il faut aussi déjà le transporter, l'instrument, c'est pas chose facile. Donc, pour moi, c'est loin de la légèreté. Puis c'est aussi ce que j'apprécie de mon instrument, c'est le côté que les gens estiment moins ou en tout cas voient moins. J'aime ça le faire découvrir dans mes concerts. Et puis jouer toutes les cartes que la harpe peut jouer.
Et Valérie Milo, vous parlez de la harpe qui est un instrument quand même assez monumental là, pour le transport. Mm-hmm. Comment vous vous organisez?
Okay. Ben, en général, je peux m'organiser seule tant qu'il n'y a pas une quantité importante d'escalier. Enfin, on a une housse de transport qui est un peu mon sleeping bag de harpe. Donc, c'est vraiment fait pour être ajusté sur l'instrument, puis résister au froid pour des petites périodes, à la pluie, la neige, tout ça. Donc, avec la housse, avec un chariot de transport qui est fait par les fabricants de harpe, qui ressemble à un petit diable, là, étrangement, pour l'instrument des anges, là, on a un petit diable pour transporter la harpe. Puis, moi, je conduis un minivan, donc... voiture là, à partir d'un VUS peut accueillir une harpe. Ça fait à peu près 6 pieds de haut. Donc, c'est gros, mais c'est quand même déplaçable. Puis à peu près une centaine de livres là, au niveau du poids.
D'accord.
Donc, avec un petit chariot, c'est pas si mal.
Pas si pesant que ça. Vous jouez sur une harpe Apollonia de Salvi qui vous a été prêtée par l'entreprise Canimex de Drummondville, propriété du mécène Roger Dubois. Pourquoi les instruments sont-ils prêtés?
Bien, parce que celui-ci, c'est un instrument de grande valeur qui vaut plus de 120 000 $ US. Donc, c'est un instrument qui n'était pas à ma portée, mais qui m'a vraiment séduit lors d'un voyage à Chicago. Donc, c'est vraiment quand... Bien, pour la harpe, en fait, c'est rarement des instruments qui ont une valeur historique parce que c'est un instrument à cordes qui vieillit pas très bien.
Ah non?
C'est le seul instrument à cordes. Oui, parce que la partie qui fait l'âme de l'instrument, qui fait le son de l'instrument, c'est la partie où les cordes tirent. En fait, où la traction des cordes se fait, c'est sur la table d'harmonie. Donc, avec le temps, la table d'harmonie va avoir tendance à bomber. Puis, il faut la remplacer après quelques dizaines d'années. Puis là, c'est comme si on avait une nouvelle harpe. Donc, c'est pas comme des Stradivarius, par exemple, qui ont une grande valeur historique, puis dont le bois, la vieillesse du bois va aller donner un son particulier. Pour la harpe, c'est différent. C'est des instruments, souvent, les instruments les plus performants ou qui ont le meilleur son, c'est souvent des instruments qui ont à peine quelques années. Ma harpe, moi, maintenant, elle a environ 5 ans, puis déjà, dès que j'ai pu commencer à en jouer, dès que j'ai eu la chance de commencer à en jouer, elle a 2 ans. Donc, c'est vraiment plus au niveau dans la décoration de l'instrument qui n'a pas vraiment d'incidence sur le son, tu l'as dit. C'est sûr que les harpes qu'on dit de prestige comme ça, ça prend seulement 1 an à faire, donc ils vont évidemment utiliser les meilleurs matériaux, mais l'équation qui fait en sorte que la harpe va sonner d'une manière exceptionnelle comme celle-ci est vraiment mystérieuse.
Donc, ça demeure un mystère.
Oui, c'est ça. C'est une équation, une accumulation de facteurs qui font en sorte que cette harpe-là, particulièrement un son. Moi, je suis tombée amoureuse de cette harpe-là justement à Chicago, alors que j'explorais pour acquérir un instrument plus puissant, notamment pour jouer en solo avec orchestre. Puis, quand j'ai commencé à jouer sur cette harpe-là, c'était quelque chose d'inégalé. J'avais jamais vu ça avant. C'est une harpe qui a beaucoup, beaucoup de puissance, mais qui a aussi une grande rondeur dans le son. Donc, j'ai un grand privilège de pouvoir en jouer. Puis, aussi, en fait, que cet instrument-là puisse résonner sur des scènes, parce que souvent, dans le milieu de la harpe, les belles grandes harpes de prestige qui valent souvent plus de 100 000 $ sont achetées soit par des grands orchestres pour le look, simplement, parce que, par exemple, la Philharmonique de Vienne veut avoir 2 belles harpes en or dans leur orchestre, mais plus souvent par des personnes qui vont l'acheter pour la valeur esthétique. Donc, c'est des harpes qui vont se retrouver dans les grands salons, en Chine ou en Italie. Puis, c'est des instruments qui vont être peu ou pas joués. Donc, dans ce cas-là, M. Dubois, en achetant cette harpe à Polonia-là, il a donné la chance de... En tout cas, je peux vous dire qu'elle résonne énormément et à tous les jours. Donc, elle est beaucoup jouée, puis je peux en faire profiter, le public aussi.
Oui, on va pouvoir en profiter, notamment jeudi qui vient. Est-ce que c'est une harpe fabriquée en Italie? Moi, Apollonia, ça sonne...
Apollonia, oui.
Apollonia,
en fait, Apollonia, c'était la mère du luthier Victor Salvi. C'est sa dernière création avant son décès de M. Salvi. C'était un hommage à sa maman. Donc, oui, c'est des Italiens. Le facteur de harpe Salvi, ça se retrouve à Crémone en Italie. Mais c'est une harpe qui a 2 nationalités. C'est-à-dire que son corps a été fait en Italie. Tout le bois, l'or, tout ça, la structure a été fait en Italie. Puis le mécanisme et les cordes ont été apposées aux États-Unis, à Chicago. Mmh. Donc, c'est une harpe italo-américaine.
Ça fait un bel enfant.
Voilà, pour un concert sur Paris, donc ça fait très intéressant.
Ah oui, alors justement, le thème de Paris, comment ce thème est exploré donc dans ce concert signé Imusici?
Ah ben là, Paris, c'est le paradis de la harpe plus récent, c'est-à-dire que c'est la ville qui a vu voir le mécanisme de la harpe se développer, la harpe intégrer l'orchestre. Donc, il y a une grande tradition de harpe à Paris. Puis, à travers les œuvres, dont Debussy, Ravel, donc la période impressionniste, mais aussi avec Boileau, dont le nom est moins connu, mais qui exprime vraiment l'apogée classique de la harpe. Donc, c'est des genres différents, mais ça me permet d'explorer. En fait, je vais parler aussi un petit peu de l'histoire de la harpe à travers ça. C'est sûr que la musique qui vient de France pour la harpe, en fait, est très riche et très développée. Puis, c'est une belle manière de découvrir ou de redécouvrir la harpe, je pense.
Et il y a aussi les compositeurs Frenner et, je ne sais pas si je prononce bien, Pärt.
Oui, Arvo Pärt, qui est un grand compositeur estonien. Oui. Oui, oui, oui. En deuxième partie, donc avec des musiciens, ça, je ne fais pas partie de cette deuxième partie-là, mais c'est des œuvres justement que j'aurai beaucoup de plaisir à écouter aussi.
Et puis, parlez-moi de la chef canadienne Tania Miller. Est-ce que c'est la première fois que vous allez être dirigée par cette femme?
Oui, c'est la première fois. Moi, je l'ai vue en concert quelques fois. Donc, je suis vraiment très heureuse de la retrouver. Je trouve ça vraiment agréable aussi de me dire que juste récemment, là, j'étais au Nouveau-Brunswick pour une série de concerts avec la chef Mélanie Léonard. Donc, je joue de plus en plus avec des chefs d'orchestre femmes. Mm-hmm. Puis, je trouve ça toujours merveilleux de voir qu'une grande place leur est faite. Puis, Tania Miller, ben, elle a une réputation qui n'est pas à refaire, en fait. Donc, je me sens vraiment honorée de pouvoir travailler avec elle cette semaine. Ouais.
Et vous êtes aussi professeure au Conservatoire de musique de Montréal. Qu'est-ce que ça vous apporte de transmettre votre passion pour la musique?
C'est un cadeau que je me fais quelque part. Moi, ça a été mon rêve depuis presque le tout début d'enseigner dans cette grande institution-là. Pour moi, les valeurs du conservatoire, les valeurs d'enseignement du conservatoire sont très, très proches des miennes. C'est vraiment axé sur l'accompagnement, puis de donner beaucoup d'expérience de scène, tout ça. Donc, ça me permet, moi, de toujours, disons, m'actualiser par rapport à ce que je fais, comme je joue énormément en tournée, sur scène. J'arrive à partager des choses avec mes élèves, puis aussi moi, j'ai eu un professeur, mon dernier professeur, qui s'appelait Rita Costanzi, me disait tout le temps, « We teach what we have to learn », donc on enseigne qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, j'essaie de rien prendre pour acquis, puis de toujours re-questionner ce que je pense ou ce que je développe avec mes élèves. Donc, eux m'apportent énormément, puis je pense que je le vois beaucoup comme un échange.
Ouais.
Puis une autre façon d'exprimer ma maternité presque, parce qu'ils sont très, très proches de moi. Je les aime beaucoup, puis j'espère les accompagner du mieux que je peux par la vie professionnelle.
Est-ce que vous observez une relève en harpe?
Ben oui, honnêtement, on a une grande classe de harpe au Conservatoire de Montréal. Ouais. On a 5 étudiants, ça c'est énorme.
Est-ce qu'il y a des hommes?
oui, j'ai un garçon. Moi, j'ai déjà eu la parité homme-femme dans ma classe. Je suis fière de le dire, oui, à l'époque quand j'enseignais au Conservatoire de Trois-Rivières et de Montréal. Donc oui, puis à chaque fois que je fais un atelier dans une école, c'est drôle à quel point c'est pas un instrument qui inspire ça, le côté genré. C'est vraiment en vieillissant, je pense qu'on réalise l'histoire, la harpe, en tout cas que ça nous happe là, de manière subconsciente, mais les garçons sont souvent autant intéressés par l'harpe que les jeunes filles. Donc, j'ai déjà eu moitié-moitié, puis c'est ça. Donc, j'ai un garçon là, qui a fini son bec en musique en ce moment avec moi à Montréal, qui est super talentueux. Il s'appelle Gabriel. Puis, j'ai 4 belles jeunes filles aussi qui étudient. En fait, ça va de préparatoire, on avait ça préparatoire là, le niveau secondaire, puis jusqu'à la maîtrise. Donc, je les prépare vraiment à la vie professionnelle.
En plus de vos concerts, de votre métier aussi de professeur au Conservatoire de musique de Montréal, vous aviez décidé de créer une chaîne YouTube pour partager votre musique?
Oui, bien, je suis très active sur le web. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Je le vois moi-même par réflexe quand je découvre un nouvel artiste. Mon réflexe, c'est d'aller voir sur Internet, mais qui sait. Donc, je vais aller fouiller un peu sur les différents réseaux sociaux ou justement en ligne, essayer d'aller voir des performances. Donc, dès le départ, j'ai investi beaucoup dans ma visibilité sur les réseaux. C'est-à-dire que quand, par exemple, sur ma chaîne YouTube, je vais en général mettre des vidéos de qualité professionnelle qui sont assez proches là, de ce que je fais sur scène. Puis pour moi, ça a toujours été une grande vitrine. En fait, toutes les occasions que j'ai eues de les jouer à l'international sont directement liées à ma chaîne YouTube. Particulièrement une vidéo qui a eu beaucoup de succès, qui est une transcription de la pièce Die Moldau de Smetana, donc qui est une pièce pour orchestre à la base, assez reconnue. Donc, c'est une transcription pour harpe un artist check que j'ai fait. Puis cette vidéo-là, en fait, je ne suis pas allée voir récemment, là, mais on est à plus de 2 millions de vues. Donc, ça m'a aidé beaucoup à me faire connaître en dehors du Canada parce que, en fait, ça va bien pour moi ici, mais à chaque fois que je sors du Canada, ben, tout est à refaire. Le monde, c'est grand. Puis, Donc, c'est ça, ça permet de me faire découvrir à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Puis, ça me permet de créer des liens aussi avec du public d'ailleurs, des gens que je pourrais peut-être jamais rencontrer ou rencontrer seulement sur scène dans peut-être 10-15 ans. Donc, je trouve ça agréable de pouvoir ouvrir les frontières comme ça grâce à Internet.
Alors, pendant que vous êtes au Québec, pendant que vous êtes à Montréal, il faut profiter de votre talent, de votre présence. Ça se passe le jeudi 17 novembre à 19h30 à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Péladeau avec l'Orchestre de chambre Imusici de Montréal, un voyage à Paris. Pour quand même un prix très accessible. Si vous voulez avoir des billets, vous passez par la salle Pierre-Mercure. Merci beaucoup, Valérie Milo, pour votre disponibilité. Et puis, bon concert jeudi.
Merci, c'était très sympathique. Bonne journée.
Vous aussi.